Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Imaginez une mutuelle qui soit engagée pour votre santé et votre bien-être physique et mental. C'est le cas de Nostrum Care, partenaire de cet épisode d'Au Revoir Podcast. Quand on vit les montagnes russes du deuil périnatal, les remous de la PMA ou de la grossesse d'après, on peut ressentir le besoin d'être bien accompagné par des soignants et soignantes, mais aussi des thérapeutes et des professionnels de médecine douce ou du domaine de la périnatalité. Sauf que ces accompagnements ont un coût et les mutuelles remboursent encore trop peu ce genre de prestations. Et c'est là que Nostrum Care fait la différence. Cette mutuelle rembourse, bien entendu, les soins médicaux classiques, mais aussi plus de 30 spécialités et pratiques qui peuvent vous faire du bien, comme la sophrologie, la naturopathie, l'art-thérapie, la phytothérapie, par exemple. En plus, ce que j'aime avec Nostrum Care, c'est qu'elle prend également en charge les rendez-vous avec les doulas. Et ça, je trouve que c'est une super nouvelle, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à y faire appel. Alors un grand merci à Nostrum Care d'être aujourd'hui partenaire d'Au Revoir Podcast et de s'engager pour le deuil périnatal. Et maintenant, vous allez écouter notre épisode en collaboration. En cette semaine internationale des doulas, qui a lieu tous les ans fin mars, nous allons donner la parole à l'une d'entre elles. Je vous souhaite une bonne écoute. Au Revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on vit un deuil périnatal ou l'éventuelle grossesse suivante, on peut ressentir le besoin d'être accompagné par différents professionnels. Il y a les gynécologues, les sages-femmes, les psychologues ou psychiatres. Et puis il y a aussi, selon les besoins que l'on a, d'autres thérapeutes ou professionnels. Dans les échanges que j'ai avec vous sur les réseaux sociaux, j'ai constaté que vous étiez de plus en plus nombreux et nombreuses à faire appel à une doula, ces accompagnantes qui sont là pendant la grossesse, la naissance ou le postpartum. Mais une doula, pourquoi ? Et d'ailleurs, en quoi consiste cette profession ? Dans ce nouvel entretien d'Au Revoir Podcast, j'ai eu envie de rencontrer Leslie Lucien. Leslie, après avoir longtemps travaillé dans la communication, s'est intéressée à la parentalité en devenant maman. Elle est donc devenue auxiliaire de puériculture, elle a travaillé en PMI, centre de protection maternelle et infantile, et a fini par trouver le métier qu'elle avait envie d'exercer. Doula. Doula, afin d'être au plus près des femmes et des familles, durant la grossesse et après. Aujourd'hui, pour Au Revoir Podcast, elle répond à toutes mes questions, ou plutôt à vos questions que vous vous posez pour mieux comprendre les liens entre doula et deuil périnatal. Car oui, les doulas peuvent être présentes quand on vit un deuil périnatal. Bonjour Leslie.
Bonjour Sophie.
Alors Leslie, on va commencer par une question très basique. Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire en quoi consiste ta profession de doula ? Quelle est ta vision de ce métier ?
Donc moi, je suis Leslie Lucien, je suis doula à Paris et ma vision du métier de doula, c'est que la doula est une accompagnante à la naissance et plus largement une accompagnante au moment des passages et des transitions. Donc moi, j'accompagne majoritairement des familles qui ont un désir d'enfant, donc parfois dans un process de PMA, quand ça prend un petit peu de temps, jusqu'à beaucoup plus tard dans la petite enfance. Donc à travers toutes ces phases, bah, y a plein d'étapes. L'étape de la grossesse, l'étape de l'accouchement, l'étape du postpartum. Et puis à l'intérieur de ces étapes, il y a aussi parfois des espaces de deuil qui viennent aussi s'inscrire.
Est-ce que avant de te lancer dans ta formation ou au cours de ta formation, tu as été sensibilisée au fait que la question du deuil périnatal, eh bien, ça faisait partie des choses auxquelles tu allais être potentiellement confrontée?
Donc c'est sûr que souvent, les doulas qui démarrent leur cheminement pour devenir doula, les femmes qui cheminent vers ce métier, elles ont plutôt la vision de l'accompagnement prénatal, éventuellement de la présence à la naissance, d'accompagner le postpartum, mais elles n'ont pas forcément, en tout cas on n'a pas, je pense, forcément l'idée de comment accompagner ces périodes si intenses du deuil. Et c'est vrai que je pense que la formation m'a aussi permis de rentrer dans ces espaces plus difficiles, plus douloureux, que ce soit le deuil, mais aussi la difficulté maternelle, les dépressions postpartum, des choses qui sont peut-être moins simples à appréhender au démarrage de la profession de doula.
Et puis, il y a la théorie et la pratique.
Bien sûr.
Et parfois, il peut même y avoir un écart assez important entre cette théorie et la pratique, comment on met ses capacités en action, parce que parfois, justement, on se retrouve confronté à une réalité qui s'incarne dans le parcours d'une personne qu'on accompagne ou qu'on va accompagner, avec tout ce que ça implique d'un point de vue émotionnel et physique pour cette personne. Et puis, il va falloir recevoir tout ça. Ça peut aussi faire écho à des choses qu'on a vécues, à certaines peurs, à certaines appréhensions, en fonction de là où on en est dans sa vie. Et donc, c'est loin d'être anodin, en fait, pour la doula. Est-ce que tu te souviens un petit peu de la manière dont tu es entrée dans la question du deuil périnatal via ta profession? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et comment, finalement, tu as réussi à puiser dans tout ce que tu avais appris dans ta formation, mais peut-être aussi dans ta vie?
Oui, je pense que tu as raison, c'est un peu un mélange de ce que j'ai appris dans ma formation et aussi ce que j'ai pu vivre dans ma vie personnelle, dans mon rapport à la vie, à la mort, mon rapport au deuil, à la maladie. C'est aussi, je pense qu'il y a des événements personnels qui m'ont permis d'appréhender aussi la maladie et qui m'ont un peu guidée vers mon chemin d'accompagnante. Notamment, ma sœur a eu un petit garçon qui, quelques mois après sa naissance, a été diagnostiquée d'une leucémie. Et donc, on a accompagné en tant que famille autour de ma sœur, de son compagnon et de son fils. Je pense que tout le monde s'est un peu mis en place, en structure pour être un soutien. Donc, je pense que j'ai appris à ce moment-là que la vie était fragile, peut-être de manière plus intense et plus dense dans ma chair, à l'intérieur de moi. Et je pense que ce qui m'a touchée dans le fait d'accompagner ma sœur dans ce cheminement, c'est aussi que je pense qu'il lui manquait des espaces d'écoute et parce que les gens avaient peur. Les gens avaient peur de la mort, en fait. Autour d'elle, peut-être que les gens n'osaient pas venir lui parler, venir lui poser des questions, lui demander un peu comment elle allait ou juste prendre des nouvelles. Et donc, je pense que ça a été quelque chose qui a été assez structurant pour moi dans l'accompagnement, ensuite dans ma pratique, puisque quand j'ai commencé à accompagner des familles, bah, j'ai pas rencontré le deuil tout de suite. C'est venu finalement quand même assez rapidement, je dirais malheureusement, parce que bien sûr que quand on accompagne la naissance, on espère toujours plutôt accompagner la vie. Et en fait, j'ai rencontré en 2016, j'ai été contactée par une amie d'amis, Marie, qui m'a contactée parce qu'elle était enceinte et qu'elle venait d'apprendre que son bébé avait une cardiopathie sévère. Et dans le cadre de cette cardiopathie sévère, on lui recommandait de subir une IMG, une interruption médicale de cette grossesse. Et je pense que je me souviens exactement à quel endroit j'étais quand j'ai reçu ces mots, en fait. Quand j'ai reçu les mots de Marie qui m'annonçaient ce qu'elle était en train de traverser. Bah, y a un peu tout un monde qui s'effondre, bien sûr, pour la personne. Et pour moi, c'était à ce moment-là où j'ai vraiment perçu, j'ai vraiment compris à quel point mon écoute, l'espace que je pouvais lui proposer à cet endroit-là, juste d'être présente pour elle, sans vouloir transformer les choses, sans vouloir donner de réponse, mais juste être là et offrir cet espace de soutien, c'était important.
Alors j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, puisque tu parles d'IMG. Alors l'IMG, c'est l'interruption médicale de la grossesse. En France, c'est une interruption qui peut être pratiquée jusqu'au terme de la grossesse. Selon la loi, il y a deux cas de figure. Soit lorsque la grossesse menace la santé de la femme enceinte, soit, deuxième cas de figure, lorsque le fœtus, donc le bébé à naître, est atteint d'une pathologie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic. Et puis effectivement, quand on est parents, futurs parents, c'est souvent au détour d'une échographie en fait qu'on apprend qu'il y a un problème, et puis est abordée la question de l'IMG lorsque justement la pathologie dans ce deuxième cas de figure est particulièrement grave. C'est la loi, il faut informer les patientes, les couples, les futurs parents. Et donc il y a une décision à prendre. Cette décision, elle est souvent perçue comme un non-choix pour les patientes, pour les couples, de se dire à un moment donné, oui, je prends cette décision, je fais ce choix, je prends la voie de l'IMG. Dans tout le protocole, il y a cette décision à prendre, cette voie à prendre, qui est le fait de la patiente en premier lieu, du coparent éventuellement dans la manière dont il est inclus par l'équipe médicale, mais légalement c'est la patiente. Et puis ensuite, c'est soumis à l'approbation d'un staff pluridisciplinaire, d'un staff de médecins qui vont donner ou non leur accord. Donc du point de vue de la responsabilité, c'est une responsabilité qui est partagée. Et pour en revenir à ton vécu en tant que doula et au vécu de la maman que tu as accompagnée, Marie. Donc là, Marie, en fait, tu as fait sa connaissance à ce moment-là. Il y avait eu cette décision qui avait été prise. En tout cas, il ne s'agissait plus pour elle de se préparer à un accouchement et à une suite de grossesse telle qu'elle l'avait envisagée. L'accouchement où tout se passe bien, on aura son bébé vivant dans les bras. Au terme de la grossesse où elle était, Marie, elle se destinait à vivre un accouchement par voie basse dans le cadre d'une interruption médicale de grossesse, ce qui n'est plus du tout la même chose du point de vue du vécu, même si physiologiquement c'est un accouchement par voie basse, un accouchement entre guillemets comme les autres. Psychologiquement, là, ça devient une épreuve, et c'est à ce moment-là qu'elle t'a contacté.
Tout à fait, et je pense que ce qui était très important, on a beaucoup partagé, je sais qu'elle est, elle est OK pour qu'on en parle, donc c'est OK pour moi, bien sûr, de la nommer et, et d'en parler. Ce qui est important dans ces moments-là, c'est souvent d'avoir un espace d'écoute empathique et aussi parfois quelqu'un qui peut refaire le fil de ce qui est en train de se passer. Souvent, on a finalement beaucoup d'infos qui viennent de plein d'endroits, d'un côté médical, et donc c'est vrai que les parents peuvent se sentir un peu perdus dans tout ce qui est en train de se passer, et ils ont parfois juste besoin de venir redire ce qu'ils ont entendu eux, que moi je puisse aussi reformuler. Donc c'est ça que tu veux dire, c'est ça que t'as ressenti, c'est ça que t'as entendu, et ça permet, je dirais, de mettre de l'ordre et aussi de voir un peu les points d'étape qui vont être les prochains points d'étape. Et souvent les familles me nomment ça, me disent mais en fait c'est rassurant aussi pour moi de sentir que tu es là dans cet espace des prochaines étapes, et c'est important.
Et puis j'ajoute aussi que dans des parcours comme l'interruption médicale de grossesse, on peut aussi être accompagné par plein de médecins, de sages-femmes. C'est un parcours qui est ultra balisé, qui a un versant médical mais aussi humain, très important, surtout lorsque les soignants sont bien formés au deuil périnatal. Et puis il peut y avoir aussi le fait de dire, bah tiens, s'il y a une doula que je peux contacter, ça rajoute quelque chose dans l'accompagnement. C'est un peu comme une personne en plus à laquelle on peut faire appel.
Oui, tout à fait, ça c'est très important. Mon travail, c'est vraiment un travail qui est complémentaire, tout à fait, du suivi par les soignants. Je dis souvent que l'accompagnement par une sage-femme, c'est à la fois un accompagnement émotionnel et aussi un accompagnement bien sûr médical de toute la gynécologie, de toute la partie de l'accompagnement de la grossesse. Et à côté de ça, l'accompagnement de la doula, c'est presque uniquement un accompagnement émotionnel. Donc on se rend compte qu'il y a toute cette place dans l'accompagnement par une doula, à l'écoute, la sensibilité de sentir dans l'intime ce qui est en train de se passer. Le lien, il est très différent aussi, mais il est vraiment complémentaire.
Et puis finalement, c'est pas parce que le suivi a commencé au moment de la grossesse, quand tout se passait bien, que ce fil, ce lien entre la doula et la maman ou le couple se dénoue une fois que le deuil intervient. Bien au contraire, toi, ta mission, en tout cas ce qui est important pour toi, c'est d'être là quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de la grossesse, et de le signifier aux femmes, aux couples que tu accompagnes.
Exactement. L'accompagnement par une doula, c'est se résume vraiment bien, je trouve, par l'accompagnement à des temps de passage. Et les temps de passage, on peut jamais dire en amont dans quelle intensité ils vont se vivre. Peut-être que ce sera une naissance tout à fait classique, entre guillemets. Peut-être que l'accompagnement que je vais commencer à offrir au démarrage du désir d'enfant, bah, il va finalement passer par un parcours de PMA qui va être hyper intense, qui peut être potentiellement long. Parfois, bah, en effet, le deuil s'immisce aussi dans ce cheminement de maternité. Et je pense que toute cette intensité, elle demande aussi d'avoir cette subtilité d'écoute et cette subtilité d'accompagnement autour pour justement ne pas se retrouver seule dans la nature et aussi seule à porter cet espace qui n'est pas facile à porter. Justement, parce qu'on parle de deuil et que la naissance, c'est plutôt la joie. Il y a cette notion de on rentre dans la vie, on est joyeux, on se projette dans la naissance de son bébé. Et quand cette naissance, elle est mêlée à un temps lié à la mort, forcément, c'est difficile. Il faut être à ce moment-là, je me souviens d'une femme qui m'avait partagé ça, qui m'avait dit « Mais si, finalement, ce qui est le plus dur pour moi, c'est de l'annoncer autour de moi. » Parce que je voudrais être celle qui est porteuse de bonnes nouvelles et de douceur autour de ce bébé. Et en fait, je suis celle qui est porteuse de l'annonce de la mort de mon bébé. Et en fait, j'ai presque l'impression que c'est moi qui dois soutenir les autres autour de moi, alors que j'aurais besoin d'être soutenue. Et donc ça, pour moi, c'est l'espace de la doula, d'être là et de dire « je suis là pour toi ».
Tu disais aussi que tu adaptais ta manière d'être là, notamment en ouvrant un espace de parole, parce que tu as bien vu, comme tu le disais, avec l'épreuve qu'a traversée ta sœur, que quand il y a un souci, qu'il y a un problème, les gens sont très maladroits ou alors ils se renferment un peu dans leur coquille de peur de faire du mal. Ils essayent aussi parfois de se protéger. Enfin, il y a quand même beaucoup de tabous, beaucoup de silence, de choses qui rajoutent de la violence à la douleur déjà existante. Donc déjà, ouvrir cet espace avec une écoute empathique, c'est ce que tu proposes. J'imagine qu'il y a aussi d'autres outils que tu peux mobiliser pour les personnes qui vivent un deuil périnatal, qui s'apprêtent à accoucher dans le cadre d'une IMG, ou que tu vas accompagner dans le cadre de ce postpartum consécutif à un deuil.
Tout à fait. Chaque doula a un peu son mode de fonctionnement. L'essence de notre accompagnement, c'est un accompagnement autour de l'écoute et de la relation d'aide. Ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, c'est vraiment la connexion à l'autre, authentique, empathique, pour offrir ce moment de parole et d'écoute. Et à la fois, une fois qu'on a déposé tous nos mots, MOTS, mais aussi MAUX, on a déposé tout ça, on peut avoir besoin de ressentir des choses dans son corps. La doula, elle vient aussi, en complément de ce travail d'écoute, elle vient avec des outils qui vont être très différents selon la tonalité de son accompagnement, selon sa vision à elle. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup avec l'hypnose de relaxation, avec la voix, pour justement venir ancrer dans le corps du repos, des respirations, de la détente. Quand justement, le cerveau, il va un peu à mille à l'heure. On a un moulin dans la tête de choses à prévoir, de choses à faire, de choses à gérer, d'émotions qui sont tellement fortes, parfois juste revenir à la respiration, revenir au souffle, c'est très important. Donc moi j'aime bien utiliser toutes ces techniques de respiration, des techniques aussi de chant prénatal que j'utilise dans la grossesse quand elle est plus classique, mais aussi dans le temps de deuil qu'on va utiliser avant la naissance mais aussi après la naissance et qu'on peut aussi utiliser au moment de l'accouchement. Puisque le souffle, la respiration, c'est vraiment un soutien solide quand on fait naître son bébé. Ensuite, il y a d'autres techniques corporelles comme le tissu avec le rebozo qui est un tissu de bercement qui peut venir justement permettre de lâcher des émotions dans le corps, de sentir que on peut avoir des tensions au niveau du dos, au niveau du bassin, et ce tissu il vient aussi nous permettre de nous relâcher. Et il y a plein d'autres choses qui sont possibles. J'ai des consoeurs doula qui travaillent dans l'eau. Il y a plein de choses peut-être en sophrologie qu'on peut aller explorer. Il y a vraiment plein de choses intéressantes.
Ce qui m'interpelle dans ce que tu dis et que je trouve très intéressant, c'est que finalement les outils que tu mobilises, et que peuvent aussi mobiliser d'autres doulas, eh bien ce sont les mêmes outils que pour toutes les femmes qui ont accouché ou qui se destinent à accoucher, que ce soit dans le cas du deuil périnatal ou pas. Ce sont des outils pour toutes les femmes et qui peuvent se décliner en fonction de la singularité de leur parcours. Et je pense aux personnes qui vivent un deuil périnatal et qui sont peut-être en train de se dire « Est-ce que je suis légitime dans mon postpartum ? Est-ce que je suis légitime dans ma maternité ?» Alors surtout quand il n'y a pas eu d'autres enfants vivants avant, on peut se poser la question « Est-ce que je suis mère ? Est-ce que je suis pas mère ?» Il y a beaucoup de choses qui se nouent d'ailleurs du point de vue de cette identité. Et finalement, toi, les outils que tu proposes, ce sont les mêmes pour toutes les femmes. C'est juste que tu les adaptes à leur vécu singulier. Et quelque part, que le bébé soit vivant ou non, ce sont les mêmes outils et ça permet peut-être de se sentir presque plus légitime. Bah oui, mon corps, il est en postpartum, comme pour toutes les femmes, même si mon bébé n'est pas là. Oui, je peux me sentir mère, même si mon bébé n'est pas là. Ma doula, elle est là pour moi, elle est là pour toutes les mères, toutes les maternités.
Tout à fait. Et c'est ultra important parce que souvent dans le deuil périnatal, on peut avoir la sensation que la maternité se referme. Aussi, c'est aussi une sensation qui vient de l'extérieur, puisque personne n'ose plus trop parler de ce bébé qui n'est plus là. Donc il est plus là physiquement, mais il est tellement là aussi émotionnellement. Il est tellement là en présence. Il est là aussi dans le corps postpartum de la femme qui vient de mettre au monde ce bébé. Donc sentir que en postnatal j'ai cette légitimité, mais parfois c'est difficile de retourner voir son autonome ou sa sage-femme en cabinet parce que on va rencontrer d'autres femmes qui sont elles enceintes ou retourner à la maternité. Donc il y a aussi ce cadre qui est privilégié avec sa doula, puisque la plupart du temps, la doula, elle accompagne au domicile de la famille. Donc c'est vraiment rentrer dans cette intimité là. Mais parfois aussi, et c'est là où il y a un besoin d'adaptabilité aussi de la doula, c'est comprendre et écouter le besoin de la femme, de la famille qu'on accompagne. Parce que parfois, rester chez soi en postnatal, c'est vraiment très intense et très dur. Et ça va être beaucoup plus facile pour une femme ou pour un homme de me dire « bah en fait, Leslie, ce serait super qu'on aille se balader peut-être au parc ensemble pour se parler, pour poser des choses, ou peut-être qu'on se retrouve dans un café. » Parce que c'est un lieu qui est plus neutre et qui est pas l'espace où on a la chambre de notre bébé, où on a notre lieu de vie. Donc c'est, je pense qu'il y a une vraie subtilité et une vraie sensibilité à avoir pour dire c'est quoi ton besoin, en fait, à toi? Je pense que, et encore une fois, c'est vrai, quels que soient les temps de la grossesse, que la grossesse soit, je dirais, aboutisse à une naissance où le bébé est en vie ou par un deuil, les femmes, les familles, elles ont besoin qu'en tant que doula, je m'adapte, en fait, à leurs besoins à elles. Donc souvent, je reviens à elles. Si j'ai la sensation d'être maladroite aussi, je vais le dire, je vais être authentique et dire... Bah, j'ai un peu la sensation que peut-être je peux être maladroite en disant ça ou ça. Dis-moi si c'est OK pour toi, comment tu te sens par rapport à ça. Je préfère toujours dire avec subtilité plutôt que de rester dans un espèce de non-dit qui va être plus douloureux.
Justement, pour revenir à la question de la prise de parole, tu parlais de l'écoute empathique. Et puis toi, de ton côté, il faut aussi que tu prennes la parole face à des personnes qui ont vécu cette épreuve du deuil périnatal. Et comme tu le soulignais, on peut se dire, est-ce que là je suis maladroite? Est-ce que ce que je dis, c'est ajusté à cette personne? Peut-être que la manière de formuler ça, ça peut faire du bien à certaines. Peut-être qu'à d'autres, ça ne peut pas faire du bien. Pour toi, c'est important justement de pouvoir verbaliser des choses comme, excuse-moi si je suis maladroite. Est-ce que ce mot te convient? Justement de faire un petit pas de côté et d'avoir du recul sur ce que tu dis, sur ce que tu fais pour t'ajuster au mieux aux personnes que tu accompagnes.
Exactement, avoir des ajustements de vocabulaire sur la manière dont les femmes vont parler de leur bébé. Est-ce qu'elles vont parler d'un bébé? Est-ce qu'elles vont parler d'un fœtus? Parce que peut-être elles le nomment pas de la même manière. Est-ce qu'elles ont envie de nommer leur bébé? Ça, c'est tellement personne dépendant. Donc, je peux être facilement maladroite, je peux facilement me tromper. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil dans tous les cas et dans tous les temps d'accompagnement. Donc, ma vigilance, c'est vraiment de repartir d'elle, de repartir de la femme que j'accompagne, de repartir de la personne que j'accompagne pour dire de quoi as-tu besoin aujourd'hui, et à partir du moment où j'entends ce besoin, ça me permet de l'accompagner au plus juste.
Et puis, pour accompagner les personnes au plus juste, comme tu dis, il faut se sentir capable de les accompagner. Et la question du deuil périnatal, c'est quelque chose qui peut nous renvoyer à des peurs, à des appréhensions, à un vécu traumatique. Peut-être qu'on s'est senti en capacité de le faire par le passé, et puis là, à cet instant, on se sent plus en capacité de le faire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou alors, voilà, si ça devait t'arriver dans le futur, ce serait quoi ta manière de dire à cette personne en face, écoute, je suis peut-être pas la meilleure personne là, maintenant, pour t'accompagner. Comment tu ferais en fait? Comment tu ferais? Parce que ça peut être très déstabilisant aussi. C'est peut-être quelque chose auquel t'as déjà réfléchi.
Ouais, je pense que c'est vraiment une question qui est ultra importante. Quel est à la fois mon cadre éthique, mon cadre émotionnel, mon cadre professionnel, et où est-ce que j'en suis à cet instant-là où tout à coup cette personne m'appelle pour me dire bah voilà ce qui se passe pour moi, tu m'accompagnes depuis plusieurs mois et en fait j'ai perdu ce bébé. Comment je me sens, comment je reçois ça? Bien sûr que je peux être authentique et nommer ma tristesse, comme je suis touchée, je peux être émue, ça m'arrive de pleurer avec les familles que j'accompagne. Pour moi, c'est important, je dis souvent ça, mais de pas pleurer au-dessus de la famille. C'est-à-dire que c'est important qu'elles sentent que je peux être touchée par ce qui se passe, mais je vais jamais prendre trop de place dans cet espace-là. Et si je sens que peut-être ça prend trop de place pour moi, que c'est trop intense, bah je pense que ça ne m'est jamais arrivé parce que je me suis toujours sentie à l'aise d'accompagner autour des deuils que j'ai pu rencontrer dans ma pratique. Mais je pense que c'est important que peut-être des jeunes doulas, et c'est ce que je dis aussi dans la formation quand je partage, de travailler en réseau et de pouvoir dire ce que tu me partages là, ce que tu vis là, je me sens tellement touchée, je me sens tellement émue, mais peut-être que je me sens pas encore assez outillée, que je me sens pas encore assez solide en tant que doula pour t'accompagner autour du deuil. Et donc je t'invite peut-être à rencontrer telle ou telle doula parce que je pense qu'elles peuvent te faire du bien, elles peuvent être les bonnes personnes. Et c'est, je pense, pas ressenti comme un abandon de la part de la famille que j'accompagnerai à ce moment-là, parce que je suis aussi source de propositions et de ressources pour lui dire bah peut-être que c'est pas moi la bonne doula pour toi à cet instant-là parce que j'en suis pas capable. Mais peut-être que il y a d'autres doulas, et donc c'est là où travailler en réseau est important, qui pourront être des soutiens.
Pour rebondir sur ce que tu dis, on est aussi finalement dans le soutien quand on reconnaît que l'accompagnement ne pourrait pas être adéquat. C'est aussi un soutien parce qu'on propose d'autres noms. On n'abandonne pas, on dit c'est pas juste un non et je donne pas de réponse à ce message ou je réponds pas aux sollicitations. En fait, tu fermes pas la porte à ces personnes. Tu leur dis non, ce sera pas moi, mais tu ouvres la porte en proposant d'autres noms, d'autres ressources.
Bien sûr, et puis souvent, ce que j'ai observé aussi, c'est que je peux avoir la sensation, en tant que doula, de pas être capable d'accompagner ce deuil, parce qu'en fait, il est pas concret. Je suis pas face à une situation où j'ai rencontré une personne qui vit ce deuil. Et finalement, quand je vis cet accompagnement, je me rends compte qu'en fait, je suis capable d'accompagner, mais j'ai besoin d'être moi-même soutenue. Je crois que on soutient bien que en étant soi-même soutenue. Je peux pas être une doula toute seule dans la nature. J'ai besoin d'avoir de la supervision, j'ai besoin d'avoir d'autres consœurs doulas avec qui je peux partager. Et dans une situation qui est très intense, le fait de pouvoir ensuite en parler, bien sûr avec toute la confidentialité qui est présente à ces endroits-là, de pouvoir dire à mes consœurs doulas avec qui j'échange, on est un petit groupe avec qui on parle beaucoup de nos pratiques, mais c'est aussi ajuster et dire bah voilà ce que j'ai vécu dans l'accompagnement, j'ai envie d'être là pour cette famille mais j'ai peur de mal faire. Bah en fait je le dis aux familles que j'accompagne et je suis aussi soutenue par d'autres personnes autour. Et je passe la main quand je sens que j'ai besoin de passer la main. Ultra important.
Dans la question du deuil périnatal, il y a le deuil périnatal qu'on peut vivre voilà un instant T, quand ça vient de se passer avec la question du postpartum. Et puis, il y a les répercussions de ce deuil quand il y a éventuellement d'autres grossesses, qu'on se réengage parfois aussi dans un parcours de PMA. Voilà, le deuil périnatal, c'est pas seulement la grossesse qui s'est arrêtée, ou cet accouchement qui s'est mal passé, ou ce bébé qui est décédé quelques temps après sa naissance, ça a des répercussions à plus long terme. Et ça, c'est quelque chose aussi que tu as accompagné, cette éventuelle grossesse d'après.
Je sens qu'il y a beaucoup de familles qui vont pas avoir forcément l'information au moment où elles vivent ce deuil et le décès de ce bébé.
Et c'est un déclencheur d'ailleurs, cette grossesse d'après, parfois pour se dire, là je vais avoir besoin d'une doula.
C'est exactement ça. C'est souvent, dans mes accompagnements en tout cas, chez des familles que je rencontre, où elles me disent, bah tu sais, cette grossesse, c'est pas ma première grossesse. J'ai vécu ce deuil, et c'est parce que j'ai vécu ce deuil dans cette première grossesse que aujourd'hui pour cette seconde grossesse j'ai envie d'être accompagnée aussi par une doula, parce que j'ai mon accompagnement par ma sage-femme, j'ai la maternité qui m'accompagne, je me sens bien épaulée, mais il y a aussi des moments où j'ai envie de dire les choses différemment, avec une intimité peut-être plus profonde, avec des peurs que j'ai envie de dire et que j'ai besoin de nommer. Et c'est vrai que l'espace que laisse la doula, c'est aussi un espace qui est plus long. Nous, on fait des séances qui sont d'1h30 à peu près. Donc, quand on a ce temps d'1h30, ça laisse aussi vraiment la place à processer la pensée, à laisser les émotions monter, à dire, bah en fait, voilà ce qui se passe aujourd'hui pour moi dans cette nouvelle grossesse et j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de le poser.
Oui, et puis c'est vrai qu'on s'adresse pas à une doula de la même façon qu'on s'adresserait à sa sage-femme, de la même manière que la sage-femme qu'on a, bah, on n'a pas forcément le même lien avec elle qu'avec son ou sa gynécologue, son ou sa psychologue. Puis, être là pendant une heure trente, où on sait qu'on va parler de ça, de cette grossesse, de ce qui a amené cette grossesse, de ce que ça réveille. Finalement, c'est aussi se ménager un espace de parole pour ce bébé ou cette grossesse précédente, ou pour ce bébé et cette grossesse actuelle.
On peut pas nier que dans cette grossesse d'après, dans ces grossesses d'après, il y a des peurs qui sont souvent encore plus présentes que pour une première grossesse. Parce que il y a une vraie conscience que donner la vie, c'est aussi donner la mort à un moment. Donc bien sûr qu'on espère tous que nos enfants vivront jusqu'à 100 ans et bien après nous. Mais je pense qu'on a cette conscience de la fragilité de la vie. Une des femmes avec qui j'étais en lien et qui m'a partagé cette phrase que j'avais trouvée hyper belle, qui m'avait dit, après la naissance de mon fils, qui était une naissance où il était décédé in utero, j'ai appris à mieux vivre, car la vie est courte et fragile, à prendre le temps de me découvrir, de me rencontrer, de me guérir pour renaître. Et je trouvais que c'était hyper beau de l'entendre me dire ça, parce que il y a à la fois plein de choses à vivre après cette première naissance ou cette naissance qui a abouti avec le décès du bébé, mais il y a aussi comment je peux construire ça sur des bases solides. Et les bases solides, c'est souvent avoir de l'écoute et avoir un accompagnement. C'est un espace qui est primordial.
Oui, et puis avoir de l'écoute et un accompagnement qui peut se traduire de plein de manières, quelles qu'elles soient, que ce soit des manières médicales, psychologiques, émotionnelles, tout simplement humaines. On a parfois l'envie d'avoir une équipe autour de soi avec des professionnels de santé, des soignants, des accompagnants, des thérapeutes, etc. etc. La doula, c'est un appui supplémentaire pour celles qui en ont besoin, et c'est un appui juste humain, parfois un petit peu logistique en fonction des missions des doulas, mais c'est juste quelque chose de plus, et c'est pas quelque chose qui vient se substituer à d'autres choses. Tout est très complémentaire, en fait.
J'ai parlé un peu tout à l'heure de la notion de travailler en réseau avec mes consoeurs doulas, mais c'est aussi travailler en réseau avec tous les professionnels de la périnatalité. Pour moi, dans un accompagnement, ce qui compte, c'est d'entendre quel est le besoin de la personne, et quand j'entends ce besoin, bah, mon expérience me permet aussi de dire parfois, ah bah peut-être ça pourrait être intéressant d'aller voir tel ou tel praticien, est-ce que c'est une piste que t'as explorée, est-ce que t'as un accompagnement par un ostéo, par tel type de sage-femme qui font tel type d'accompagnement, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais? Et souvent les personnes n'y ont pas pensé parce que justement elles connaissent pas, elles n'ont pas connaissance et conscience de tout ce qui existe autour. Donc c'est aussi le fait d'être accompagné par une doula, c'est aussi ça l'idée, c'est de se dire, bah moi je suis pas une femme à tout faire, je peux pas tout accompagner. Donc c'est aussi m'autoriser à dire, bah là c'est génial, je sens que tu nommes ce besoin là, est-ce que ça pourrait pas être telle ou telle personne qui pourrait être un intervenant intéressant pour toi?
Plus tu parles, Leslie, de ton métier de doula, de ta mission, plus je me rends compte en fait que voilà, je ne savais pas vraiment en quoi consistait la profession de doula. Moi, j'ai pas fait appel à une doula. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai vécu mon deuil. J'ai perdu mon premier bébé il y a 6 ans. Mes filles, elles ont maintenant 5 ans. À cette époque-là, finalement, on parlait quand même beaucoup moins des doulas qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on en parle de plus en plus et pas toujours dans des termes très élogieux, ce qui fait qu'on peut avoir une idée complètement fausse de ce que c'est une doula. Et voilà, toi, tu me parles de l'écoute, tu me parles d'outils très concrets comme le chant prénatal, comme l'hypnose, enfin en tout cas toutes ces choses que tu proposes et d'autres vont proposer d'autres outils. Ça va bien au-delà de cette vision très réductrice, presque folklorique, si l'on en croit certains médias qui grossissent le trait et qui ne sont pas très justes en fait envers cette profession qui ne se réduit pas à ça et qui est bien plus riche que ça et bien plus nuancée aussi que ça.
Souvent, dans l'inconscient collectif, il y a un peu cette vision de la doula très ésotérique, qui va faire brûler de la sauge, pourquoi pas. Moi, j'adore la sauge, donc en même temps, je suis paradoxale. Mais je trouve que c'est important de se dire qu'il y a cette vision qui peut être un peu ésotérique de cette femme qui danse avec une robe un peu ample et voilà, je sais pas, une espèce de vision très chamanique de la couronne de fleurs... Et pourquoi pas? Peut-être que ça peut être la doula qui correspondrait à certains types de familles et c'est super si c'est leur besoin. Après, je trouve que c'est intéressant pour moi de dire la doula, il n'y a pas la doula, justement. Il existe beaucoup de doulas différentes avec des regards différents. Mais je pense que ce qui est pour moi l'essence de notre métier, c'est l'approche centrée sur la personne. Et l'approche centrée sur la personne, c'est pas du tout ésotérique. C'est, offrir un temps à la personne qui formule ce qu'elle ressent, ce qu'elle traverse, ce qu'elle vit, pour l'entendre. Et la vraie différence avec un thérapeute, parce que souvent on me dit ça, on me dit « mais oui, mais du coup, si t'écoutes et si tu prends le temps d'entendre les personnes, ça veut dire que t'es un peu comme un psy, t'es un peu comme un thérapeute. » Et moi, je dis toujours « non », parce que le thérapeute, il a un objectif de soin, il a un objectif thérapeutique. Je viens chez mon thérapeute avec une problématique de solutionner... je sais pas, la relation avec ma mère, par exemple, entre autres choses, et je vais travailler ça avec lui, avec cet objectif. En tant que doula, j'ai pas d'objectif. Je n'ai pas d'objectif autre que celui que la personne fasse son chemin de parentalité et qu'elle se sente soutenue sur ce chemin-là. Et ensuite, mais les chemins, ils sont tellement vastes, il y en a des très différents, la vie amène des choses tellement variées que je ne sais pas ce que la famille va choisir, ce que la personne va prendre comme chemin. Mais je suis là un peu pour éclairer des pistes, pour donner de l'information et qu'elle s'en saisisse et qu'elle soit autonome. C'est ça qui est important pour moi.
Et puis proposer un appui humain. En fait, là, dans certaines épreuves, on se rend compte que parfois, il y a très peu de monde, dans le cas du deuil périnatal, notamment, mais aussi d'autres épreuves. Le deuil de périnatal, c'est aussi faire le deuil de certaines amitiés, de certaines relations qu'on croyait solides. Donc, c'est aussi apporter un appui humain, là où parfois, on peut se sentir très seul, tout simplement.
Ce que tu dis là, Sophie, autour de l'accompagnement par les proches, il est aussi, bien sûr, très important. Et à la fois... Parfois, l'accompagnement des proches, bon, y a ceux qui fuient parce qu'ils ont peur aussi, hein. Ils ont peur de la mort, ils ont peur de cet espace, ils ont peur d'être maladroits, donc ils préfèrent ne pas être là. Et il y a aussi ce temps de différenciation, je dirais, entre l'accompagnement par la famille, par les proches, par les amis, c'est ultra important. Et la vraie différence avec la doula, c'est que la doula... elle tend à la neutralité. Bien sûr que je suis pas neutre. J'ai aussi un cadre de référence qui est le mien, avec mon histoire, etc. et mes engagements. Mais mon objectif dans l'accompagnement, c'est d'être la plus neutre possible pour ne pas venir plaquer d'idées reçues, d'infos, de pensées sur ce que vit la personne que j'ai en face de moi. Et ça, c'est ultra important et c'est très différent de l'accompagnement par la famille, parce que la famille, elle peut pas être neutre, l'ami, elle peut pas être neutre. Elle te connaît depuis des années, elle connaît ton chemin, elle connaît un peu tes mimiques, ton mode de pensée, etc. Donc elle va forcément projeter des choses sur ce que tu nommes et ce que tu vis. Alors que ta doula, l'objectif, c'est justement qu'elle soit neutre et qu'elle suspende son jugement. Ça, c'est aussi important.
Alors justement, ça m'amène à une de mes questions, d'autant que tu l'as très bien dit auparavant. Maintenant, j'ai bien compris, il y a finalement autant de doulas et de profils de doulas que de personnes qui auraient besoin d'un accompagnement. Justement, à nos auditrices qui écouteraient cet épisode, qui se diraient, par exemple, bah, là, je suis enceinte, j'aimerais bien faire appel à une doula pour cette grossesse très particulière parce que je vais avoir besoin d'un espace de parole en plus, d'un espace de parole sous d'autres modalités que celui que j'ai, par exemple, chez mon ou ma psy, chez ma sage-femme. Donc justement, Leslie, une auditrice qui se dirait, voilà, j'ai envie d'avoir une doula, d'avoir un accompagnement avec une doula. Quels sont un petit peu pour toi les points de vigilance à avoir, les choses à identifier pour se dire, cette doula, par exemple, elle pourrait me convenir. Ce serait celle qui serait la plus adéquate pour moi. Cette question, elle est importante et elle est aussi bien pour les doulas que pour d'autres professions parce que quand on a un vécu de deuil périnatal, faire appel à des professionnels qu'on ne connaît pas, ça peut être très compliqué parce qu'on va se dire, est-ce que ce professionnel ou cette professionnelle va comprendre un peu ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre, est-ce qu'elle va pas projeter des choses? On se rend compte qu'il y a des personnes, quelle que soit la profession en fait, et je tiens à le préciser, qui ne sont pas du tout sensibilisées ni formées au deuil périnatal, ce qui peut donner beaucoup de maladresse et aussi un sentiment d'insécurité, d'appréhension pour les femmes et les couples qui sont en recherche d'un accompagnement, d'un interlocuteur, interlocutrice par rapport au deuil périnatal. Donc voilà, pour toi, une auditrice qui veut une doula, qui commence à en contacter certaines, quels sont pour toi les points de vigilance, les choses auxquelles il faudrait faire attention pour dire « Ok, potentiellement, cette doula, c'est celle qui est faite pour moi. »
Ouais. C'est ce que tu dis sur la notion de sécurité, c'est majeur pour moi. Il y a plusieurs choses qui peuvent permettre de guider vers le choix d'une doula. Je trouve que le bouche à oreille, ça reste quand même quelque chose qui fonctionne vraiment bien dans nos pratiques. Souvent, dire bah j'aimerais bien dans cette grossesse être accompagnée par une doula, en parler avec des amis autour. Est-ce que c'est une pratique que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez des doulas? Et les gens vont dire bah oui, non, etc. Ça peut donner une première piste. Et ensuite, j'ai envie de dire, rencontrez votre doula. C'est hyper important de se positionner pour dire bah j'appelle telle doula parce que peut-être elle m'a été recommandée ou parce que dans ma ville il y a deux doulas, donc j'appelle une des deux et je suis vigilante à comment je me sens par rapport à elle, comment je peux dans le lien téléphonique peut-être que je vais avoir avec cette doula dans un premier temps me dire ah est-ce que je me sens à l'aise avec elle, il y a quelque chose je sens qui matche bien, j'ai pu lui nommer tout de suite mon besoin, dire bah voilà ce qui s'est passé pour moi en quelques mots, j'ai vécu une première grossesse avec un deuil, aujourd'hui c'est une nouvelle grossesse, j'ai envie d'être accompagnée différemment, j'ai l'accompagnement de ma sage-femme, de la mater, mais j'ai aussi envie d'avoir l'accompagnement émotionnel d'une doula, est-ce que vous pourriez être cette doula? Et donc, on se rencontre une première fois, et moi, j'ai dit toujours aux familles, je serai peut-être pas un good match avec vous. Peut-être on sera pas forcément la bonne doula pour la famille. Et c'est pas, ça veut pas dire que je suis une moins bonne doula ou que cette famille correspond pas du tout. C'est juste que il y a quand même cette notion d'affinité et de lien qui se tisse assez rapidement dans l'intimité parce qu'on se rencontre dans un cadre plutôt intime, parce qu'on dépose des choses qui sont plutôt personnelles rapidement. Donc, peut-être de faire confiance à son ressenti sur ce qu'on ressent en échangeant avec la doula, c'est hyper important.
D'ailleurs, là, Leslie, tu parles de la famille et pas seulement de la femme enceinte. Justement, la doula, elle peut être là pour la famille, pour le couple.
Tout à fait. La famille, c'est important pour moi et je dis souvent ça. Souvent, au début, dans ma pratique, on me reprenait, on me disait « Mais pourquoi tu dis la famille ?» Parce qu'en fait, c'est hyper important pour moi de sentir que c'est un peu la constellation tout autour qu'on accompagne. Bien sûr, j'accompagne la femme enceinte, si elle est enceinte, et j'accompagne son ou sa partenaire. J'accompagne aussi les enfants de ce couple, s'il y en a déjà. Et ça m'arrive aussi d'accompagner la famille plus élargie en rencontrant les grands-mères, les grands-pères. Et parfois, c'est un peu petite souris. Il y a des partenaires qui vont pas avoir envie d'être là tout de suite, puis ils sont un petit peu dans la cuisine, et puis ils sont en train de faire le thé, et puis finalement, au bout d'un moment, ils s'installent un peu dans le canapé quand même, et puis ils viennent aussi parler, parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin. Et puis, la survenue d'un deuil périnatal, c'est pas juste les parents, c'est aussi, est-ce qu'il y a des aînés? Comment je peux parler avec les aînés de ce bébé qui est décédé? Est-ce que, je peux dire qu'il a eu une existence courte, mais qu'il a été là et qu'il fait partie de la famille, qu'il fera toujours partie, ou est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de partager? Comment j'ai envie de parler avec mes aînés de la présence de ce bébé dans nos vies? Comment il existe? Et souvent, les aînés, ils ont aussi besoin de venir dire un peu, bah, est-ce qu'ils sont tristes? Est-ce qu'ils comprennent pas? Et parfois, c'est plus facile avec un tiers que de le dire à son parent. Quand, justement, dans le deuil, tout est tu, tout est étouffé souvent. J'ose pas parler de ce qui se passe pour moi. On en parle pendant tout un temps et puis après, l'entourage n'en parle plus du tout, comme si ce bébé n'existait plus. Comment je peux continuer de laisser la parole se faire, se processer, se partager?
Pour terminer, Leslie, j'ai une question qui est davantage à destination de tes collègues doula, de certaines qui voudraient se lancer, qui se lanceraient tout bientôt ou qui sont déjà installées mais qui n'ont pas encore eu la possibilité de prendre à bras le corps la question du deuil périnatal. Est-ce que tu aurais des conseils à destination de tes collègues, futurs collègues doula? Quelles sont pour toi les choses les plus importantes en tant que doula qui est sensible, sensibilisée, formée à cette question?
Ce que je sens profondément dans l'accompagnement des familles qui vivent un deuil périnatal, c'est que je peux avoir peur en tant que doula de faire des maladresses, dire des choses qu'il faut pas dire, de peut-être pas avoir assez de connaissances autour du deuil. Et moi, je crois pas qu'on ait forcément besoin de connaissances autour du deuil. Plus de se dire que si je ne sais pas quelque chose, je vais m'autoriser à dire aux familles que j'accompagne, mais en fait, c'est une situation que j'ai jamais rencontrée. Je suis prête à regarder avec vous, à chercher avec vous des informations si vous avez besoin, si vous avez envie. Je sens que faire preuve d'humilité, je pense que c'est quand même la base de notre métier de doula, en disant, j'ai peur d'être maladroite, j'ai peur de pas savoir quoi faire, donc je vous le dis, mais j'ai envie d'être là pour vous. Je pense que c'est le cœur de l'essence de ce que j'ai envie d'offrir en tant que doula, donc je pense que c'est important. J'ai aussi envie de dire que parfois on peut avoir envie en tant que doula de porter les familles tellement que on les emmènerait à un autre endroit. Il y a un peu cette notion dans le deuil aussi, je trouve, d'aider la personne à se relever, de vraiment la soutenir, etc. Et moi, j'ai envie de dire aux personnes qui accompagnent, parfois c'est une femme qui m'avait dit ça et j'avais trouvé ça hyper beau. Elle m'avait dit, mais en fait, j'ai pas besoin qu'on me relève, j'ai pas besoin qu'on m'aide à aller plus loin. J'ai juste besoin qu'on s'allonge à côté de moi et qu'on se mette à mon niveau, en fait. Il y a vraiment cette notion, je trouve, de avoir quelqu'un qui s'allonge à nos côtés, finalement, dans une période qui est si intense, ça fait juste du bien. J'ai pas forcément besoin qu'on me dise « cheer up, tu dois aller mieux ». Je pense qu'il y a, sous ça, il y a toujours cette essence bienveillante de dire j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te soutenir, j'ai envie que t'ailles plus loin, j'ai envie que ça aille mieux. Sauf qu'en fait, ce que disent souvent les personnes autour de moi qui ont pu vivre un deuil, elles disent mais moi j'ai pas envie d'un autre bébé, j'ai envie de ce bébé qui est celui qui est décédé. Donc je peux pas être encore je peux pas être déjà dans la suite, alors que ce dont j'ai besoin, c'est juste qu'on s'allonge à côté de moi et qu'on prenne soin de moi. Par l'écoute et par le soin.
Merci beaucoup Leslie pour toutes ces réponses.
Merci Sophie de m'avoir offert cet espace.
À bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à Leslie Lucien d'avoir répondu à toutes mes questions et à Nostrum Care de soutenir Au Revoir Podcast et de s'engager pour le deuil périnatal. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette mutuelle, ses prestations et ses offres en matière de santé physique, mentale et de périnatalité, rendez-vous sur nostrumcare.fr. Je vous mets le lien direct et plus de détails dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir d'écrire et de réaliser cet entretien que vous venez d'écouter. Si vous souhaitez soutenir Au Revoir Podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et Spotify. En attendant un prochain épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram, sur le compte aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très vite.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.